jase à Boulevard 102.1.
Je ne sais pas quelle commande à l'auto vous avez fait exploser aujourd'hui. C'était celle du McDo, mercredi passé, avec Audrey Pinchot pour le Grand McDo. Avant qu'on passe à Luc La Liberté, sa chronique en politique américaine. Luc, qui est également producteur des capsules sur les médias sociaux, La Liberté en clair. Il y a de la circulation, Pascal.
Merci pour vos signalements au 88-971-1021. Il y aurait un ralentissement au pont Pierre-Laporte, direction sud. Véhicule arrêté sur la voie de droite.
Luc La Liberté est avec nous pour parler politique américaine. Luc, hier, chronique très intéressante d'Yves Boisvert dans le journal La Presse, le quotidien La Presse, devrais-je dire, où justement Luc mentionne s'être entretenu avec un ex-conseiller des Républicains qui dit « Hey, c'est pas mêlant, le Parti républicain s'en va à l'abattoir pour les prochaines élections de mi-mandat. »
Oui, puis écoute, non seulement il dit « on va à l'abattoir », mais en plus, chose très intéressante dans la chronique d'Yves Boisvert, c'est qu'il dit « on assiste finalement à l'effondrement de ce qu'on appelle le mouvement MAGA ». Cette base pure et dure, loyale, qui suit Donald Trump depuis 2015, depuis qu'il descend ce fameux escalier roulant puis qu'il annonce son arrivée sur la scène politique. Donc, ce n'est pas n'importe qui, le monsieur Schmidt en question, qui s'exprime, donc qui échange avec Yves Boisvert de La Presse. C'est, entre guillemets, un vieux de la vieille du Parti républicain. Et moi, je me souviens très bien l'avoir suivi à l'époque de la campagne qui opposait Barack Obama à John McCain. Et je sais pas si nos auditeurs, nos auditrices s'en souviennent, mais Barack Obama, c'est comme la saveur du mois en pleine campagne électorale. On a un John McCain qui est vieillissant, qui ne peut pas être aussi dynamique que Lee Obama. Et c'est lui qui va avoir ce coup, qu'on considère presque être un coup de génie pendant 2 ou 3 semaines, mais le coup d'aller chercher Sarah Palin, l'ancienne gouverneure de l'Alaska, qui a donné un nouveau souffle à la campagne de McCain jusqu'à ce qu'on la fasse parler dans les médias.
Ouais, et là, elle est allée... Voilà. Elle faisait partie du Tea Party, si je ne me trompe pas. Hein? C'est bien
excellent.
Ça.
Excellent. Excellent. Bonne mémoire.
Donc, c'est là que le prof sort. Excellent. Ouais, c'est bonne note.
Exactement. Oui, puis elle était de la frange très radicale. Mais dis-moi donc, tiens, je réfléchis à voix haute, Luc. Est-ce que l'arrivée de Sarah Palin, puis justement cette stratégie-là de M. Schmidt, a amené ce courant MAGA-là, parce qu'on est dans un courant beaucoup plus à droite, beaucoup plus extrémiste, devrais-je dire?
Il y a une influence, puis il y a des liens entre le Tea Party et les MAGA. Mais on est rendu, ce n'est même plus une question de gauche ou de droite, finalement. Il y a beaucoup de modes de gestion là-dedans. C'est non seulement on était plus à droite comme l'était le Tea Party, qui avait même un côté libertarien, mais on est allé ensuite presque 100% derrière tous ces influenceurs qui sont à l'origine d'une bonne partie de la désinformation aux États-Unis. Donc, Sarah Palin, c'était une étape, mais c'est une étape importante. Et on se disait, comment quelqu'un, du moins si on s'en remettait à ses réponses, comment quelqu'un qui a si peu de connaissances de la politique internationale, comment quelqu'un peut-il se démarquer à ce point-là? Elle incarnait une forme de rejet et de frustration de beaucoup d'Américains. Et donc, c'est un peu annonciateur, mais on est rendu beaucoup plus loin maintenant qu'on l'était sous Sarah Palin. Et c'est là donc où Schmidt, qui a vécu l'effet Sarah Palin, le bon au début et ensuite la catastrophe, parce que ça a un peu contribué à couler la campagne de John McCain, c'est là où ses lumières deviennent intéressantes sur l'état actuel du parti. Il le suit, ce parti-là. Il est à l'intérieur du parti depuis des décennies. Et là, ce qu'il nous annonce, c'est effectivement la fin de ce mouvement MAGA. Donc, j'ai aimé le texte d'Yves Boisvert et je vais toujours considérer l'opinion d'un stratège, d'une bête politique comme M. Schmidt. Mais malheureusement, si on espère qu'il a raison, les statistiques au moment où on se parle ne lui donnent pas raison. En fait, ce qu'on voit disparaître de l'univers MAGA, c'est, je viens d'évoquer ça un petit peu précédemment, c'est un certain nombre, finalement, d'influenceurs qui s'éloignent maintenant de Donald Trump, comme Tucker Carlson. Mais statistiquement, si on parle des électeurs MAGA, essentiellement, ils sont là. On en a perdu quelques-uns, ce qui est déjà un signal d'alarme. Mais Donald Trump est encore très fort et on vient de le voir en Indiana la semaine dernière. Les candidats qu'il avait appuyés, les candidats qu'il a financés ont gagné les primaires républicaines qui avaient lieu en Indiana. Donc, il a encore une bonne poigne. Je ne suis pas prêt, donc, à suivre le chemin de M. Schmidt. Notons que Donald Trump peut être ébranlé, mais moi, je ne vois pas encore d'explosion du mouvement MAGA.
Il y a un parallèle qui va être intéressant de suivre, et c'est au niveau des opposants, c'est-à-dire les démocrates, parce que M. Schmidt parle justement de la stratégie que les démocrates devraient adopter. Ça ressemble étrangement à une stratégie Barack Obama, parce qu'on parle en termes de prétendants pour la prochaine présidence du gouverneur John Ossoff en Géorgie, 33 ans seulement si je ne me trompe pas, et Andy Beshear au Kentucky. Voilà. C'est deux comtés normalement qui devraient être républicains, qui sont démocrates, ces deux jeunes politiciens. Puis là, je sens que les Américains sont prêts à faire ce tournant-là parce qu'on en a soupé un peu de Joe Biden qui se trompait de côté pour sortir de la scène, puis de Donald Trump et de son niveau cognitif qu'on se pose des questions.
Et moi, ce que j'aime bien dans la proposition de Schmidt, il faudra voir maintenant est-ce qu'ils ont un profil au plan national pour se présenter puis espérer ratisser large. Ils ont encore du temps. 2028, ce n'est pas demain. Mais dans un cas comme dans l'autre, Ossoff et Beshear ont besoin de se faire connaître. Ils ont besoin de sortir de leur état respectif. Donc, la Géorgie, dans un cas pour Ossoff, et le Kentucky pour l'autre. Mais ce qui est drôlement intéressant dans les deux cas, c'est qu'on ne joue pas la carte nécessairement démocrate plus au centre ou progressiste. On va jouer plus le côté pragmatique ou terre à terre. C'est de quoi on parle aux gens. Et comment on s'adresse à eux? Parce qu'on a dans Andy Beshear quelqu'un qui, mine de rien, s'est imposé deux fois dans un État qui est très républicain, et c'est un progressiste. Il était plus progressiste, par exemple, que ne l'était Joe Biden. Donc, il parvient, même comme progressiste, à se faire élire dans un État rouge, républicain. Ça veut dire qu'il a la façon de parler aux gens, en tout cas dans son État, visiblement. Il a la façon et il a les sujets. Et c'est un peu le même comparatif qu'on peut faire pour Ossoff. Ossoff est dans un État qui a longtemps été profondément républicain, mais qui a bougé un petit peu sous Joe Biden. On a vu donc des sièges de sénateurs démocrates être remportés dans cet État-là, et on avait vu Joe Biden s'y démarquer aussi. Mais ça demeure un État républicain. Ça veut dire que ce que les deux gars ont, ou les deux hommes ont en commun, c'est des sujets, les préoccupations de la vie de tous les jours, puis on laisse les grands débats idéologiques, les grandes orientations, les grandes définitions théoriques. On ne joue pas aux profs, ou en tout cas aux chercheurs avec les électeurs. On est prêt à leur parler des préoccupations quotidiennes. Et moi, ça, je pense que c'est une leçon que devrait retenir n'importe quel démocrate pour les élections de mi-mandat, mais aussi pour 2028.
Mais ça reste que c'est divisé aux États-Unis en ce moment, puis j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont juste perdus, qui ne reconnaissent pas leur pays, qui ne reconnaissent pas les dirigeants ou encore les chefs à la tête de leur parti républicain ou démocrate. On sait comment c'est fait. Est-ce qu'on se trompe dans cette vision-là?
Non, absolument pas. Et c'est un des facteurs qui explique pourquoi il y a autant d'indépendants ou encore, ça fait étrange à dire avec autant de polarisation, mais d'indécis. Les Américains sont plus unis. Ça, les sondages l'ont montré. Hein? On parle de polarisation au plan politique, dans les médias, puis on fait ressortir ça dans les sondages. Mais il y a aussi des sondages qui disent que les Américains, dans la vie de tous les jours, ils ne sont pas si différents que ça. Et ça revient un peu à ce que je mentionnais pour Ossoff ou encore à Beshear, c'est qu'ils en ont assez des grands débats de société là, ou des grandes idéologies. Ils veulent qu'on leur parle du quotidien. Et dans le quotidien, on vit une période, et ça, ce n'est pas républicain ou démocrate, où les écarts entre les très, très riches et le reste de la population n'ont jamais été aussi grands. Même pas au 19e siècle, en pleine révolution industrielle. Donc, ça veut dire que ces gens-là sont prêts à entendre parler de « OK, on s'en va où maintenant? On change, entre guillemets, la game ou on change la donne de quelle manière? » Et on est prêt à l'entendre de candidats qui nous parlent de ces sujets-là. Ils peuvent avoir une étiquette démocrate ou une étiquette républicaine, mais il y a du kilométrage ou du millage, puisqu'on est aux États-Unis. Donc, il y a du millage à faire avec ces préoccupations-là, au-delà de la partisanerie. Il ne faudrait pas négliger un des facteurs de la dernière campagne électorale, Pascal, et ça rejoint, c'est un élément supplémentaire pour compléter la réponse, mais il y a des gens qui ne se sont pas présentés aux dernières élections pour aller voter. On a parlé du fait que Donald Trump gagne à la régulière, et c'est vrai, l'écart qu'il séparait de Kamala Harris n'était pas si grand que ça. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est le nombre de personnes qui ne se sont pas déplacées pour aller voter. Ça veut dire qu'il y a des votes à prendre. Il y a des gens à faire sortir de chez eux encore. Et au risque de me répéter, je pense pour la troisième fois, parlons-leur de ce qui les préoccupe sur le terrain. Il y a une foule de débats qui sont utiles dans une guerre culturelle, mais qui ne mettront pas de pain sur la table, qui ne vont pas réduire la facture d'épicerie ou le prix de l'essence. Il y a beaucoup de choses très terre à terre avec lesquelles l'accès à l'éducation, par exemple, avec lesquelles on va être plus gagnant si on approche ces gens-là.
On termine, Luc, avec le conflit en Iran. Encore une fois, des négociations qui n'ont pas amené à un résultat. On écoute, c'est sur LCN ce matin, donc la traduction en français par-dessus. Ce point de presse, ma foi, comment qu'on pourrait le qualifier, Pascal?
Brouillon.
Brouillon de Donald Trump?
L'entente sur le nucléaire de l'Iran, écrite par Barack Hussein Obama, qui aurait permis à l'Iran d'avoir l'arme nucléaire en l'espace d'un an. Il aurait eu de cela plusieurs années. J'ai mis fin à cette entente à mon premier mandat. Et puis, avec ce magnifique avion juste ici, je les ai frappés très fort. Nous avons frappé très fort. Ils m'ont dit, vous savez, je vais simplement vous dire ceci. Ils disaient, non, peut-être que ce n'était pas si fort comme frappe. L'Iran me l'a dit très clairement. Ils voulaient nous donner la poussière nucléaire, comme je l'appelle. C'est de cela dont ils nous parlaient. C'est...
Donc, on passe de Barack Hussein Obama à « Je les ai frappés très fort avec l'avion à côté ».
Mais l'Iran dit non.
C'est ça. Mais là, on est rendu quoi? Au-delà de 70 jours, puis il n'y a rien qui s'améliore. C'est vraiment une épine dans le pied de Donald Trump, puis une épine que celui, qu'il s'est mis lui-même. Là.
Écoute, on traîne ça comme un boulet là, en Iran, puis aux États-Unis, quand on regarde la réaction de la population à ce que fait actuellement la gestion de Donald Trump. Mais on va traîner ça comme un boulet aussi à bord de l'avion qui nous amène à Pékin. Parce que Donald Trump, et ça, c'est pas banal non plus, c'est un signal qui est très, très, très fort. C'est pas Xi Jinping qui va se déplacer pour aller rencontrer Donald Trump. C'est Donald Trump qui, pour la deuxième fois, il l'avait fait dans son premier mandat, va se déplacer pour aller négocier avec Pékin. Et ça va être sur fond de conflit en Iran. Et c'est pas pour rien que Donald Trump revient lui-même avec Barack. Vous remarquerez qu'il insiste sur le Hussein Obama. Là, c'est comme le caractère étranger. C'est presque Saddam Hussein. Donc, il va le démoniser. Mais s'il revient avec Barack Obama, c'est qu'entre autres, il ne parvient même pas sur papier à obtenir ce que Barack Obama avait dans cette entente signée avec 5 autres pays. Donc, c'est même maladroit de la part du président de ramener ça comme comparatif. Là où il peut dire, et il a raison, on a touché durement l'Iran, c'est vrai. Mais regardez la réponse de l'Iran, qui contrôle encore le détroit d'Ormuz. La réplique iranienne aux négociations actuelles avec les États-Unis, ça a été particulièrement brutal. C'est « on veut que vous mettiez fin à toutes les sanctions ». Donc, ce n'est pas un pays qui est en position, en tout cas, il ne dégage pas un élément de faiblesse ou de compromis.
Non.
Vous mettez fin aux sanctions. Vous nous redonnez les avoirs que vous aviez gelés. On veut retrouver cet argent-là, ça nous appartient, et on veut le détroit d'Ormuz. Donc, c'est au contraire, c'est pas une porte ouverte aux négociations. Le message que semble envoyer l'Iran, c'est « vous êtes dans le pétrin chez vous, on les lit vos sondages, on sait que vous avez une échéance électorale, puis on pense qu'en tenant encore un bon moment, on est capable d'aller chercher des compromis supplémentaires ». Donc, le président Trump se retrouve d'un côté avec « je fais quoi maintenant? Est-ce que je bombarde encore? Est-ce que j'attends? » Parce que le pétrole iranien, on en produit moins. C'est donc moins de données qui rentrent pour l'Iran. Donc, est-ce qu'on laisse le temps passer? Mais du temps, Donald Trump en a pas beaucoup. En tout cas, les Républicains en ont pas. Si Donald Trump en a pour les élections de mi-mandat. Puis il y a toujours cette voie diplomatique. Et la raison pour laquelle, je disais, il traîne ça comme un boulet en prenant l'avion mercredi pour se rendre en Chine, c'est qu'un des pays qui peut exercer des pressions sur l'Iran parce qu'il a acheté beaucoup de pétrole iranien, c'est justement la Chine. Et la Chine, jusqu'à maintenant, paie un prix de ce conflit-là, mais là encore, on est capable d'attendre ou d'acheter du temps, ce qui peut servir la Chine plus que les États-Unis. C'est Donald Trump qui arrive en Chine dans la position du demandeur. Du demandeur parce qu'il espère une intervention de la Chine pour l'Iran aussi. Donc, on voit que ça empoisonne la vie de Donald Trump, du moins en tout cas pour les prochaines semaines, peut-être les prochains mois. Mais retenons, il n'y a pas de progrès sensible. Puis la dernière réplique de l'Iran, entre nous, hors d'onde, je vous dirais, ça semble même un peu baveux. Hein?
Ben oui.
Donc, on met les Américains au défi. C'est OK, c'est vrai, on a été affectés, vous nous avez touchés. mais on a encore nos missiles, on a encore nos lanceurs de missiles, et ben, on pense qu'on peut être plus patient que vous ne l'êtes.
America Alone, je retiens ça, Luc. C'était Make America Great Again, mais non, c'est ou America First, c'est maintenant America Alone. Luc La Liberté, chroniqueur en politique américaine pour nous et producteur des capsules La Liberté en clair sur les médias sociaux. Suivez-le si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment pour ta contribution à l'émission d'En Jase.
Salutations aux auditeurs, auditrices et à vous deux. Bonne fin d'émission.
Cool. Bye. On se reparle. On fait une courte pause et par la suite, on va parler avec Alex Laramin. C'est la folie à Montréal! C'est la folie! Montréal. Le Canadien mène 2-1 dans sa série contre les Sabres. Qui l'aurait cru?
Ben pas vous autres, en tout cas. Ni toi, ni Alex.
Non, et là, je vais m'auto-flageller avant qu'Alex le fasse parce qu'il m'a avisé par texto. J'avais prédit une victoire des Sabres 6-1 vendredi. C'est le Canadien qui a gagné 5-1. Oh!